Nice jusqu'à Ajaccio, on ne dépassera pas les 23 degrés.
Bon, et pour un temps beaucoup plus de saison, il faudra attendre la semaine prochaine, ce que nous disait Rémi André tout à l'heure. Vous écoutez Sud Radio, nous sommes le mardi 30 avril, le mois de mai arrive. Sud
Radio. Parlons.
Et le journal, les grands titres de l'actualité de ce Grand 8 avec vous, Laurie Leclerc. Bonjour Laurie.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Enfin de la pluie dans le Roussillon, une bonne nouvelle après 2 ans de sécheresse historique dans les Pyrénées-Orientales.
Mathis, 16 ans, tué samedi à l'arme blanche à Châteauroux. L'auteur des coups de couteau mortels et sa mère ont été mis en examen.
Gérard Depardieu, jugé au mois d'octobre pour agression sexuelle. L'acteur a passé plusieurs heures hier en garde à vue.
Dernière limite pour le scrutin du 9 juin. L'inscription sur les listes électorales se termine demain, alors que plus de la moitié des Français n'ont pas l'intention d'aller voter.
De l'eau. Enfin, dans les Pyrénées-Orientales, les agriculteurs se réjouissent après 2 ans, donc quasiment sans avoir reçu une seule goutte de pluie.
Hein. Les Catalans ont vu le retour de cette pluie hein. Depuis dimanche. Le département qui vit une sécheresse record. Alors, Christine Bouillot, aujourd'hui, tout le monde a le sourire.
Les plus heureux depuis dimanche et le retour de cette pluie, ce sont les agriculteurs.
Oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle, oui, c'est sûr.
Chantal Campos, elle est arboricultrice et maraîchère.
C'est une pluie qui pénètre bien, qui fait du bien aux arbres. Et ça faisait presque 2 ans qu'ils n'avaient pas vu une goutte d'eau, ces arbres. Nous, on a quelques arbres les plus âgés qui ont pas résisté.
Depuis 2 ans, tous voyaient se former les nuages, les promesses de pluie, et puis plus rien balayé par le vent de la tramontane. Ces averses sont donc une bouffée d'oxygène en cette période de printemps. Bruno Villa, il est président des jeunes agriculteurs des Pyrénées-Orientales.
Parce que là, on commence à rentrer dans une situation compliquée pour envisager les semaines à venir. Hein. C'est un soulagement d'avoir de l'eau, c'est quelque chose qu'on apprécie.
Malgré tout, cette pluie ne va pas rattraper 2 années de sécheresse consécutive. Jean Huchier, il est hydrogéologue.
Cette situation qui est le résultat de 2 années sèches de suite, il faudrait un cumul pluviométrique prolongé pour vraiment inverser la situation. Aujourd'hui, la situation des nappes, par contre, reste dans un état grave.
Cette pluie ne permettra pas de rattraper 2 années de sécheresse. Le département reste toujours en situation de crise.
Et la gestion de l'eau hein, fait partie des mesures du nouveau projet de loi d'orientation agricole qui arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron annonce, lui, recevoir les syndicats agricoles après-demain.
Oui, et c'est un souci évidemment pour l'agriculture, mais également pour le tourisme. Oui. C'est l'un des départements les plus touristiques de France, bien sûr. Et il y a toujours beaucoup de touristes qui viennent et qui consomment de l'eau pendant l'été, même si l'année dernière, il y a eu beaucoup de mesures qui avaient été prises. Nous en venons maintenant à l'enquête sur le meurtre de Mathis, 16 ans, à Châteauroux. Elle avance, cette enquête. Les propos racistes pourraient être à l'origine du drame.
Hein. Avec un jeune homme de 15 ans d'origine afghane qui a été écroué, mis en examen pour meurtre. Sa mère de 37 ans, elle, était mise en examen, Clément Arion, pour violence volontaire.
Et oui, elle aurait giflé la victime après les coups de couteau assénés par son fils. Cette mère, décrite par ses proches comme instable, n'aurait pas tenté de calmer son fils. À l'origine du drame, les deux jeunes auraient participé à une battle de rap dans le quartier Saint-Denis à Châteauroux. Mathis aurait tenu des propos raciste à l'encontre du jeune Afghan. Une bagarre aurait ensuite éclaté entre les deux jeunes, selon des témoins. Un peu plus tard dans la journée, l'adolescent soupçonné du meurtre serait revenu avec un couteau pour se venger, accompagné donc de sa mère. L'adolescent poignarde le jeune Mathis, qui est ensuite giflé par la mère. Selon des témoins, elle aurait tenté de le réanimer. Après coup, l'adolescent de 15 ans, l'auteur présumé des coups de couteau, était déjà connu des services de police pour vol aggravé avec violence la semaine dernière. Le jeune homme et sa mère sont donc mis en examen respectivement pour meurtre et violence volontaire.
Les explications de Clément Arion.
Gérard Depardieu, l'acteur accusé d'agression sexuelle, va être jugé dès le mois d'octobre.
Hein. Le comédien de 75 ans a passé la journée d'hier en garde à vue, Julio Boscherini, pour des faits qui se seraient produits sur plusieurs tournages.
C'est une décoratrice de l'équipe du film Les Volets Verts, réalisé par Jean Becker, qui l'accuse de l'avoir agressé sexuellement. Les faits se seraient déroulés dans un hôtel particulier à Paris, en septembre 2021, la victime a déposé plainte en février 2024 pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrage sexiste. Selon son témoignage recueilli par Mediapart, l'acteur aurait tenu un grand nombre de propos graveleux durant le tournage. Il l'aurait aussi attrapé avec brutalité, pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'à ses seins. L'autre plainte est portée par une ancienne assistante de tournage. Elle accuse Gérard Depardieu d'agression sexuelle en 2014. Âgée de 24 ans au moment des faits, elle souhaite rester anonyme. Sa plainte a été déposée le 9 janvier et dénonce des propos obscènes prononcés au domicile de l'acteur à Paris. Au total, 5 plaintes pour agression sexuelle et viol ont été déposées contre Gérard Depardieu. L'une d'entre elles a été classé sans suite pour prescription.
Et Gérard Depardieu, hein, déjà mis en examen pour viol depuis 2020 dans une autre affaire. L'acteur, hein, on le rappelle, avait affirmé en 2023 n'avoir jamais abusé d'une femme. Hein.
Allez, dans un instant, poursuit le journal. Est-ce que vous êtes inscrit sur les listes électorales avant les européennes? C'est la date limite demain pour s'inscrire. On en parle dans un instant et puis on revient aussi sur la suspension des financements à Sciences Po par la région Île-de-France, Valérie Pécresse.
Sud Radio.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger.
La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, annonce suspendre les financements à Sciences Po.
Une suspension après des manifestations pro-palestiniennes au sein de l'université parisienne. Une mobilisation qui a également gagné hier la Sorbonne, restée fermée dans l'après-midi avec des manifestants qui ont été évacués par les forces de l'ordre. D'autres appels à la mobilisation ont été lancés pour aujourd'hui dans des universités de Lyon ou bien de Bordeaux.
Les deux élus de la France Insoumise, Mathilde Panot et Rima Hassan, entendu aujourd'hui par la police.
Auditionné dans le cadre d'enquête pour apologie du terrorisme pour des propos et un communiqué du parti sur la guerre entre Israël et le Hamas. La France Insoumise qui appelle à un rassemblement de soutien d'ici une demi-heure à Paris.
Date limite demain pour s'inscrire sur les listes électorales.
C'est ça, demain en ligne jusqu'à vendredi en mairie pour pouvoir voter le 9 juin prochain aux élections européennes, alors que plus d'un Français sur deux n'aurait pas l'intention de se rendre aux urnes. Louis Kergorlet, est-ce que les Français boutent cette élection ?
Pour Gilbert, 87 ans, c'est simple, il ne se rendra pas aux urnes le 9 juin prochain.
Parce que les uns comme les autres, c'est des bons rien. Enfin, il y a quelqu'un, Superman, qui arrive, mais je vois pas qui, même du côté de la gauche comme de la droite, de tout ce que vous voulez, moi je vois personne.
Théo, 27 ans, lui, hésite, mais ne semble pas encore convaincu.
Ah, c'est vrai que les choix ne font pas toujours envie, soit ils sont controversés, soit c'est une catastrophe. Et après, les gens, des fois, ça les saoule un peu. Je vais voir un peu les candidats qu'il y a, je vais voir ceux qui peuvent m'intéresser le plus.
Une attitude que comprend Thibault, même si lui se rendra bien aux urnes.
Je conçois que beaucoup de gens s'intéressent à aucune élection parce que on est truffé de gens qui n'appliquent pas ce qu'ils décident et leurs promesses.
De quoi laisser espérer un léger sursaut, selon Frédéric Dabi de l'Institut IFOP.
C'est le seul scrutin national du quinquennat après cette présidentielle qui a frustré beaucoup de Français, ça donne envie de voter. D'autre part, la logique de vote sanction contre le gouvernement, contre le président Macron, peut inciter beaucoup de Français à se déplacer aux urnes.
Le taux d'abstention mesuré actuellement est entre 5 et 6 points inférieur par rapport aux européennes de 2019.
Les précisions de Louis de Kergorlet.
Pas d'écran avant 3 ans, pas de téléphone portable avant 11 ans. Ce sont les recommandations d'experts remises aujourd'hui au gouvernement.
La commission écran demandée par Emmanuel Macron préconise également de limiter l'usage du téléphone pour les adolescents. Ce rapport appelle à mieux paramétrer par exemple le contrôle parental ou bien demande à lutter contre le fil de déroulement infini de certaines applications ou le lancement automatique de vidéos.
Question pour vous. Quel est le point commun entre masculinisme, platisme ou encore détox?
Réponse, ces mots font tous leur entrée dans le nouveau dictionnaire Larousse. L'édition 2025, Félix Mathieu, comptabilisera au total 64 300 mots.
Les éco-gestes et les méga-bassines font leur entrée dans le dictionnaire, tout comme les zones à faible émission. Pas mal de nouveaux verbes aussi. Mentorer quelqu'un, par exemple, c'est le fait de devenir son mentor via une collab. Pourquoi pas? Oui, ça aussi, c'est un nouveau mot. Les équipes de Larousse sont à l'affût, en fait, de l'actualité des usages, raconte Karine Girac, directrice du département langue française.
On repère à peu près 5000 nouveaux mots chaque année, et nouveaux sens, et on va appliquer deux critères, un critère quantitatif. Pour rentrer dans le dictionnaire, le mot doit être très très utilisé. On parle de millions ou de milliers d'occurrences. Et puis un critère qualitatif, le fait que le mot soit partagé. Il faut que toutes les générations puissent l'utiliser ou en avoir entendu parler et que toutes les catégories socio-professionnelles le puissent aussi. Donc les médias généralistes nous aident à faire ce choix qualitatif.
Les anglicismes ne sont pas interdits. Vous pouvez vous rendre au skatepark après avoir couru un ultra-trail. Du côté des noms propres font leur entrée la militante iranienne Narges Mohammadi ou encore côté sport, deux Antoine, tiens, Griezmann et Dupont.
Les précisions de Félix Mathieu.
Tiens, à propos d'Antoine Dupont, il délaisse le temps d'un film le maillot du Stade Toulouse.
Avec ses coéquipiers Anthony Gelon et Paul Graou, ils vont porter les couleurs de leur ancien club, le RC Auch. Alors pas de départ annoncé du Stade Toulousain, c'est juste le temps d'un court-métrage publicitaire pour promouvoir la formation des jeunes rugbymen made in Auch.
Allez, un dernier mot avec du football et le début des demi-finales de la Ligue des Champions.
Avec le premier match aller ce soir, le Bayern Munich qui reçoit le Real Madrid, coup d'envoi à 21h avant demain l'affrontement Dortmund-PSG.
Ah oui, et les supporters parisiens qui tremblent déjà, comme les supporters marseillais aussi.
Exactement.
Jeudi, bien sûr, en Coupe d'Europe, en demi-finale. Il est 8h10, merci Laurie Leclerc. Dans un instant, un couple peut-elle être sur une même liste électorale? Elisabeth Lévy, Lévy sans interdit, il s'agit du couple Zemmour-Sarah Gnafo. On voit ça dans un instant.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid, ce soir à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG, demain à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
La Poste. Index. Mot masculin, qui désigne le deuxième doigt de la main, doigt situé entre le pouce et le majeur, qui est souvent très utile pour indiquer le bon chemin à quelqu'un, ou à son courrier, lorsque l'on change de domicile.
Alors, à l'aide de votre index, cliquez sur laposte.fr et faites suivre facilement et rapidement vos courriers vers votre nouvelle adresse. Avec les bons plans logement de La Poste, la réexpédition du courrier pendant 6 mois est au prix de 47 euros. Voir conditions de l'offre sur laposte.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ça va ?
Non, je suis accro.
Eh ben moi, je suis accro aux acras. Et en ce moment, les acras de morue sont à 1,89€ les 200 grammes au lieu de 2,69€. Moins 29%.
1,89€ les acras de morue.
Et issu de la pêche durable, hein ?
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 9,45€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au jeudi 2 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limiter les aliments gras, salés et sucrés.
Depuis 3 ans, plus de 1300 salariés d'Amazon ont bénéficié de formations diplômantes reconnues par l'État. Anna a suivi une formation de technicien de maintenance. En seulement 2 ans, elle est passée de préparatrice de commandes à technicienne diplômée. Désormais, elle porte une combinaison et un casque de chantier. Et sa fille trouve qu'elle ressemble à une super-héroïne. Chez Amazon, nous sommes résolus à favoriser les formations diplômantes pour les salariés des sites logistiques, sous condition d'éligibilité.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger.
Il est 8h12, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Vous revenez sur un échange plutôt tendu entre Sarah Gnafo et Benjamin Duhamel qui va nous parler d'une histoire de couple, en quelque sorte, et de famille.
Oui, le journaliste a interrogé la nouvelle numéro 3 de la liste Reconquête et elle n'a pas aimé une de ses questions.
Là, la question qui peut se poser pour ceux qui nous regardent, c'est de savoir s'il n'y a pas une forme de mélange des genres à voir qu'un président d'une formation politique désigne sur une liste pour les européennes, sa compagne. La question, elle est sans aucune polémique. Sarah,
alors, je vais vous dire, moi, je ne prends pas la vie politique comme un job. Ce qu'on fait, c'est pas un métier. Moi, je cesse pas d'être une patriote française à 18h et les jours fériés. Mmh. Donc, ce combat, il est tout à fait logique qu'on le mène ensemble parce que c'est le combat d'une vie.
Alors, contrairement à ce qu'a compris ou fin de comprendre le journaliste, elle ne lui reproche pas sa naissance. Elle dit qu'il est injuste de réduire quelqu'un à sa famille ou à son conjoint. Parce que, pardon, excusez-moi, j'ai un problème.
Allez-y.
Donc, Benjamin Duhamel a dû vivre des soirées d'élections présidentielles quand il était en couche-culotte, ça aide. Mais être beau, riche et en bonne santé, ça aide aussi, hein. Ça aide le talent d'ailleurs. Et la chance, Patrick, ça n'est pas un crime.
Ouais. Est-ce que la question du mélange des genres se pose tout de même, Elisabeth Lévy?
Bah écoutez, ce qui est drôle, c'est que alors elle se pose surtout pour Zemmour, hein, parce qu'on n'a pas enquiquiné Gabriel Attal parce que son mari ou son ex-mari fait partie de son gouvernement. On n'a pas questionné Mélenchon sur Chiquirou, hein, il fait trop peur aux journalistes. Donc ils ont vraiment un traitement de défaveur, et c'est particulièrement injuste pour Sarah Knafo, parce que tout le monde le sait, elle n'est pas seulement la campagne, loin s'en faut, hein, elle est l'inspiratrice du projet politique de Zemmour. Sans elle, il n'y a pas de campagne présidentielle, il n'y a pas de reconquête et il n'y a pas de liste aux européennes. Et puis en plus, elle a raison, hein, ce n'est pas comme un PDG qui nommerait sa maîtresse DRH, par exemple. Mmh. La politique, c'est un engagement qui peut se vivre à deux. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de reprocher aux Ménard leur double réussite conjugale et politique? Alors, Knafo n'est pas seulement Madame Zemmour, hein. Cette guerrière bosseuse était d'ailleurs zemmourienne bien avant de croiser Zemmour. Et puis en plus, Patrick, numéro 3 sur une liste européenne, hein, comme prébende, franchement, c'est pas le cadeau du siècle. Alors bien sûr, hein, on peut préférer en politique les agitateurs imprécateurs à la Boyarde ou au Bono, mais franchement, au lieu de chercher des noises à Knafo, on devrait plutôt se féliciter que des jeunes gens brillants veuillent encore s'engager dans la carrière.
Merci Elisabeth Lévy. Commentaire, Amine El Khatmi, Éric Revel. Est-ce que c'est normal qu'un couple, puisque alors c'est maintenant ils sont en couple, ça a été un peu officialisé, hein, je ne sais pas d'ailleurs si Zemmour a divorcé ou pas, mais peut être sur une même liste électorale pour des européennes comme ça, et puis un niveau bien situé, hein, elle n'est pas en fin de classement de cette liste. Lui, hein. Oui, non mais c'est vrai.
Il y a une forme.
C'est Marion Maréchal qui mène, bien sûr. Oui.
Il y a une forme d'hypocrisie dans cette histoire, parce que le nombre de couples non officiels.
Ouais.
Alors eux, ils se sont affichés, tout le monde le sait, mais le nombre de politiques qui sont dans des relations avec des journalistes, ouais, ou même au sein des mêmes partis, des dirigeants, sans que l'opinion publique ne le sache, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie. Moi, ce qui m'étonne plus dans le choix, c'est que en général, lorsque vous faites une liste, vous cherchez à ouvrir la liste et à aller chercher des personnalités extérieures. Là, la composition de la liste de Zemmour, et à mon avis, c'est ça qui est plus étonnant que le fait que Sarah Knafo soit troisième, c'est que c'est une liste à 100% reconquête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas contrairement à Bardella, contrairement à LR, François-Xavier Bellamy qui est allé chercher une agricultrice, un général, il n'y a pas, c'est le petit cercle de fidèles de Zemmour qui est aux trois premières places, et c'est ça que je trouve un peu plus étonnant.
Et c'est vrai,
mais
que
non,
je dois bien
préciser, c'est quand même d'avoir 5 élus, en fait,
et
c'est normal qu'ils veuillent, si vous voulez, c'est un parti qui n'a pas d'élus aujourd'hui, c'est normal qu'ils veuillent que les cadres du parti aient une fonction, franchement.
Et puis, non mais je précise, parce que c'est vrai que c'était peut-être un petit peu confus dans ce que j'ai dans le lancement tout à l'heure, ils ne sont pas sur la même liste, parce que Zemmour, évidemment, n'est pas candidat, mais il met sa compagne sur cette liste qui est menée par Marion Maréchal, hein, Elisabeth, hein, pour préciser
les
choses.
Il met, c'est un peu, excusez-moi, c'est pas Zemmour qui décide de
c'est
tout.
Lui qui est le patron, du parti quand même, non ?
Sarah Knafo doit avoir aussi, j'imagine, elle a un rôle dans le parti, c'est-à-dire vous faites comme si elle était juste Madame de Pompadour.
C'est vrai. Éric Revel.
Bon, d'abord, être troisième sur une liste qui est créditée de 5-6%, c'est pas du tout l'assurance d'être
d'être
député européen.
C'est
pas sûr qu'elle voit beaucoup Strasbourg comme député européen. Après, je veux dire, ce qui est marrant, c'est que on fait ce procès-là. Ouais. Alors, je sais que dans l'entretien, il y a aussi ce qu'elle dit à Benjamin Duhamel sur « Et vous, vous êtes pas le fils de, le neveu de, etc. » Bon, je mets ça de côté.
Ouais.
Mais en revanche, ce qui est très marrant, c'est qu'on a un débat sur est-ce qu'on peut avoir son compagnon, sa femme, sur une même liste que... Mais en même temps, on valorise l'idée du couple présidentiel. Mmh. Alors que le président de la République est élu, mais que la première dame de France ne l'est pas du tout. Et là, ça ne choque personne, si veut, de voir que la femme du président de la République, et ça a toujours été le cas sous la Ve, joue un rôle important politique, alors que précisément, elle n'est pas du tout élue. Donc cette espèce de deux poids, deux mesures m'amuse assez. Maintenant, tout ça, c'est quand même une tempête dans
un verre d'eau.
C'est comme si on reprochait à Marion Maréchal d'être la nièce de Marine Le Pen et donc d'avoir fait sa carrière politique grâce auparavant le pénis. Vous voyez,
bon,
tout ça est pas
Elisabeth. Oui, Elisabeth.
Une précision très importante, parce qu'on a coupé le son qui était trop long, sans doute.
Oui.
Mais la partie la plus importante, c'est que contrairement à ce qu'on raconte sur les réseaux et à ce qui est fait semblant de croire Benjamin Duhamel, elle ne lui a pas dit « et vous ». elle lui a dit, ça m'étonne que vous qui souffrez de ces accusations injustes, parce que vous avez du talent, vous n'êtes pas le fils d'eux, le neveu d'eux, ça m'étonne que vous me posiez cette question. Alors, c'est quand même pas tout à fait pareil. Et je répète que Mélenchon, personne ne lui demande des comptes sur sa vie privée, qui a peut-être des impacts aussi sur la vie du parti.
Ça avait été évoqué à l'époque, hein, d'ailleurs. Ça avait été évoqué. Certains avaient mis ça aussi sur le devant de la scène. Merci, Elisabeth Lévy. On poursuit dans un instant. Alors, je précise, hein, Elisabeth Lévy n'est pas dans ce studio et ce matin, elle est en déplacement et elle ne passe pas l'aspirateur, hein, avec ce qu'on entend derrière. C'est un petit bruit d'ambiance qu'il y a, mais elle n'est pas en train de faire sa chronique et de passer l'aspirateur.
Mais c'est parce que je vais à
Cameroun. Oui, alors, expliquez. Expliquez ce que c'est.
Cameroun, c'est la grande commémoration de la Légion étrangère. C'est une bataille au Mexique dont l'enjeu était d'ailleurs assez, bon, hypothétique. Mais, si vous voulez, c'est le symbole du fait que des légionnaires, ils ont tenu à très peu contre des armées. Que pour des légionnaires, la mission, ça passe avant tout, y compris avant leur vie.
Oui, merci Elisabeth Lévy. Allez, dans un instant, on poursuit le débat. Et tout à l'heure, Nathalie Loiseau sera l'invitée politique de Jean-Jacques Bourdin à 8h30.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
J'adore vous entendre, j'adore les multiplexes, j'adore, voilà quoi, franchement, chapeau.
Sud Radio, la radio du rugby.
Dis donc, cher voisin, on s'est offert une pergola.
Oui, une pergola bioclimatique à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même.
Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille?
Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, store, carport, porte, portail, peinture.
Des fenêtres et volets aussi?
Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins de 30% avec livraison offerte.
Usineonline.com? Faut que j'en parle à ma femme. Chérie!
Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez.
Écoutez Sud Radio Le Havre en DAB+.
Sud Radio.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai.
Avouez-le, c'est bien pratique les vélos électriques. Surtout quand les beaux jours reviennent et que vous rêvez de petites balades en forêt.
Comment ça, petites?
Ok, alors pour les petites et les grandes virées, chez Decathlon, on a conçu un vélo tout chemin électrique avec une autonomie jusqu'à 100 km. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, le vélo électrique Riverside 520E est à 999€ au lieu de 1399, soit 400€ de réduction.
Decathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
Carrefour. Quand vous me dites ronde, ferme, brillante et charnue, ça vous fait penser à... Eh bien, je vous réponds que les tomates grappes Origine France sont au prix le plus bas de 1,99€ le kilo seulement. Alors ? Ah oui, aussi. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, partenaire fruits et légumes de Paris 2024. Catégorie 1, détails sur carrefour.fr.
Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger.
Ça semble anecdotique comme ça, mais c'est plus important que ça. 8h23, nous poursuivons les débats avec, dites-le franchement, Amine El Khatmi, Eric Revel. Pas d'écran avant 3 ans, pas de téléphone avant 11 ans. Ce sont 11 ans, ce sont les recommandations d'experts qui vont être mis aujourd'hui au gouvernement. Bon, déjà, on se demande, Eric Revel, comment ça pourrait être appliqué, hein, évidemment. On va pas mettre un pion ou un policier derrière chaque parent, chaque enfant. Hein.
Ok, mais pardonnez-moi, c'est de la responsabilité des parents. Ouais. Ça me semble être du bon sens absolu. Pardonnez-moi, pas d'écran avant 3 ans, mais de quoi parle-t-on? Donc, des parents, mère ou père, qui permettent à leur... nourrisson quasiment, enfin alors ouais. bébé de 3 ans d'avoir un EHPAD de vrai quasiment.
L'EHPAD devrait être condamné.
Attendez, c'est pas possible. Enfin, oui, il faudrait les mettre à l'EHPAD, ces gens-là. Enfin, oui, moi, mais... ça me semble tomber sous le sens. Comment est-ce qu'on peut laisser son gamin
parce que les écrans, les écrans de télé,
vous savez ce que c'est? Ce que c'est de filer un iPad à son enfant de 3 ans, c'est la démission des parents totale.
C'est-à-dire. Mais c'est comme devant la télé, Eric, vous mettez le gamin devant la télé.
Et alors, vous laissez votre enfant de 3 ans devant la télé pendant 10 heures.
Non, pas des heures.
Et à 11 ans, avoir un téléphone. Attendez, c'est un vrai sujet. En fait, je vais vous dire. Pourquoi est-ce que l'éducation n'instruit plus? Parce que les parents n'éduquent plus. Éduquer, c'est empêcher son enfant de 3 ans d'avoir un écran devant lui pendant des heures. Ouais. Au prétexte que comme on ne sait pas comment l'amuser, on le colle devant un écran et on se défausse de ses responsabilités de parent. Mmh. Mais ça devrait être l'eau commun de chaque père et de chaque mère de ne pas laisser son enfant de 3 ans avec un écran devant lui.
Oui, le rapport permettrait en fait et préconiserait de mettre un contrôle parental pour éviter le fil de déroulement infini entre guillemets et le lancement automatique des vidéo, hein. C'est un peu ça.
Les écrans font office de nounou maintenant.
C'est-à-dire que
les parents, enfants parfois, puis quand vous en avez plusieurs, parfois c'est un peu fatigant. Vous êtes parfois un peu bon. Et du coup, il y a ce réflexe maintenant, c'est-à-dire on met des dessins animés, puis on lui dit tiens, et puis l'enfant est calme pendant effectivement toute la durée. Donc je trouve ça
compliqué.
Et puis je m'interroge sur la faisabilité, c'est-à-dire concrètement, comment on va faire? On va aller chez les gens, vérifier, vérifier comment.
Ce sont des recommandations, quoi. Ça pointe quelque chose qui est assez important. C'est probablement ce que disait aussi Eric, l'éducation aux écrans, en fait, aujourd'hui, quoi, et à l'utilisation des téléphones portables. On voit bien dans la violence, en fait, au quotidien qui existe, que souvent, cette violence, elle se fait à travers les réseaux sociaux, et puis à l'intérieur des établissements
Les écrans, ça dépend, encore une fois, ça dépend ce qu'on en fait. Je veux dire, regarder une fois de temps en temps avec ses enfants devant un iPad, un film, une série, quand c'est occasionnel, dans un cadre précis, évidemment, ça pose pas de problème. Mais laisser un gamin de 12 ans, passer 3 heures sur TikTok chaque jour, là, on est clairement dans une dérive. Ouais. Et on sait en plus cette application en particulier contribue à la violence, contribue à diffuser des contenus complètement horribles. Donc encore une fois, les écrans, ça dépend ce qu'on en fait.
Ouais, mais c'est un vrai sujet quand même de société. D'ailleurs, vous vous souvenez, lors de l'intervention d'Emmanuel Macron, ça avait choqué en fait beaucoup, hein, parce qu'on l'attendait sur un sujet en fait assez important, et il avait commencé par les écrans, Éric Revel, parce qu'il sait que ça touche quand même énormément au cœur des foyers.
Oui, mais pour le coup, le président de la République a raison, c'est... Plus on commence tôt l'addiction aux écrans, plus la dérive est impressionnante avec tout ce que vous disiez, Patrick. C'est-à-dire, on n'apprend pas que des choses sur les réseaux sociaux ou sur les sites qu'on consulte. On est aussi plongé dans la pornographie, on est aussi plongé dans l'ultra-violence, on est aussi et on s'expose à des fous furieux qui se servent de manière anonyme des réseaux sociaux. Donc, mais maintenant, une fois que le poison est dans la place, comment est-ce que vous faites concrètement, parce que c'est ça le sujet, au-delà des effets de manche et de la communication, comment est-ce que vous faites concrètement pour éviter que le cerveau des plus jeunes soit bouffé par cette gangrène forte que constitue l'addiction aux écrans? Moi, j'ai pas la réponse.
C'est un sujet évidemment extrêmement complexe, qui embarrasse d'ailleurs eux-mêmes les parents, bien sûr. Souvent qui sont confrontés à ça. Les deux élus de la France insoumise, Mathilde Panot et Rima Hassan, vont être entendus aujourd'hui par la police, parce que elles sont auditionnées dans le cadre d'enquête pour apologie du terrorisme pour des propos et un communiqué du parti sur la guerre entre Israël et le Hamas. Qu'est-ce qui peut en ressortir?
Pas grand chose.
Franchement,
je crois que je
ne surprendrai personne quant à l'opinion que je me fais de la France insoumise et que j'ai eu l'occasion de préciser ici à de nombreuses reprises. Donc j'ai pas le moindre commencement de sympathie pour ces gens-là et pour les horreurs qu'ils ont prononcées
alors
depuis
que vous
le 7
avez
octobre.
Été proche de à un moment donné des gens de gauche, y compris de LFI. Je rappelle que vous êtes cofondateur du Printemps républicain
de la gauche, oui effectivement, mais pas de cette gauche-là, pas d'une gauche qui fait de l'apologie du terrorisme ou qui explique que le Hamas est un mouvement de résistance. Ouais. Néanmoins, une fois tout ceci dit, que la patronne d'un groupe parlementaire soit convoquée par la police pour un communiqué publié dans le cadre du groupe parlementaire, quelle que soit l'opinion que l'on se fait de Madame Panot, c'est à mon avis un fait inédit et inquiétant.
Ouais. Éric Revel,
oui, je partage l'idée parce que deux choses l'une, ou bien Mathilde Panot ressortira sans grief policier, et dans ces cas-là, on s'interrogera effectivement sur le fait d'avoir convoqué la patronne d'un groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, normalement élue. Alors je dis pas, moi aussi, j'ai pas de sympathie évidemment particulière pour LFI, mais c'est un vrai cas de jurisprudence quand même. Il faut s'interroger. Qui a convoqué et pourquoi, s'il n'y a aucune trace d'apologie du racisme en ce communiqué, si elle ressort libre, alors on pourra s'interroger sur pourquoi a-t-on convoqué la représentante d'un groupe d'opposition aussi ultra-islamo-gauchiste qu'il est. Moi, c'est une question que
je me pose. En pleine campagne électorale.
Allez, tiens, on va en parler justement de la campagne électorale dans un instant avec Jean-Jacques Bourdin, évidemment, jusqu'à 9h, qui reçoit ce matin comme invité politique Nathalie Loiseau, députée européenne Horizon et porte-parole de la campagne de Valérie Ayer. On va revenir sur tous ces sujets, évidemment. Il est 8h30. Bonne journée.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Je vous remercie énormément au niveau de Sud Radio de tout ce que vous faites pour donner la parole aux sans-voix, parce que sur nos médias nationaux, personne n'en parle.
Sud Radio, parlons vrai.
À tous ceux qui, quand on leur demande « je te resserre », répondent « oh non, merci, là je peux plus rien avaler ». À ceux qui disent « oh non, 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 pas de fromage non plus, là c'est... » Et aux mêmes qui vont quand même se jeter sur la dernière danette. Oui, donc ça passe quand ça t'arrange, en fait. Hein ? Chez Intermarché, pour l'achat de deux packs de crème dessert à la vanille danette à 1,46€ l'unité, le troisième est offert. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 12 mai, 3 fois 500 grammes, soit 1,95€ le kilo au lot, transformé en France. Autre saveur disponible, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Écoutez Sud Radio Lille en DAB+.
Sud Radio.
Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Avouez-le, c'est bien pratique les vélos électriques. Surtout quand les beaux jours reviennent et que vous rêvez de petites balades en forêt.
Comment ça, petites ?
Ok, alors pour les petites et les grandes virées, chez Decathlon, on a conçu un vélo tout chemin électrique avec une autonomie jusqu'à 100 km. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, le vélo électrique Riverside 520E est à 999€ au lieu de 1399, soit 400€ de réduction.
Décathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
J'ai vu des idées de génie.
Chérie ! Toi, t'es encore allé chez Jiffy ?
Bah oui, je pouvais pas manquer leur super promotion jardinage. Les 3 sacs de terreau 50 litres à seulement 10€. À bon prix, on va rempoter.
10€ les 3 sacs de terreau 50 litres ? Ok, je sors les gants, la pelle et l'arrosoir.
En ce moment chez Jiffy, il y a tout pour cultiver votre jardin. Les 3 sacs de terreau universel 50 litres sont à seulement 10€. Oui, 10€ les 3 sacs de terreau universel 50 litres.
Au bon prix Jiffy, on plante tout.
Seulement jusqu'au mardi 30 avril.
J'ai vu des idées de génie.
Ouvert même le dimanche.
Sud Radio, l'invité politique. Jean-Jacques Bourdin.
Il est 8h33. Bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir ? Eh bien, parlons vrai ce matin avec Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, députée européenne, Horizon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la campagne de Valérie Ayer. Vous êtes aussi présidente de la sous-commission défense au Parlement européen. Donc, nous allons parler défense. Mais je voudrais commencer avec le dernier sondage pour les européennes, IFOP fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio. Raphaël Glucksmann se rapproche de Valérie Ayer. 2 points les séparent. 16,5 pour la liste Ayer, 14,5 pour la liste Glucksmann. Vivons-nous un tournant ?
Je crois qu'on vit une entrée en campagne, une vraie, c'est-à-dire je pense que cette semaine, les Français commencent à prêter attention à ce qui se passe pour les Européennes, et nous allons avoir pas mal d'annonces cette semaine, l'annonce des colistiers de Valérie Ayer, bientôt le programme de la majorité. Je pense que c'était difficile pour Valérie Ayer de faire campagne seule, et si je peux avoir un avis personnel, je pense qu'on a beaucoup trop parlé de nos adversaires et pas du tout assez de ce que nous avons fait depuis 5 ans, des promesses que nous avons tenues et de ce que nous avons envie de continuer à faire pour que la France soit plus forte dans une Europe elle-même plus solide, plus puissante.
Alors je vais revenir sur l'Europe, mais Nathalie, vous serez sur la liste.
J'espère.
Non, vous espérez.
Écoutez, tant c'est pas fait, c'est pas fait.
Mais vous avez reçu des assurances.
On a le droit d'être superstitieux, comme beaucoup de gens, comme les journalistes, comme voilà.
Non, d'accord. Liste connue jeudi, jeudi soir, je crois savoir. Oui. Jeudi soir, mais quand même, 2 points d'écart seulement.
Oui.
Pourquoi, selon vous, au-delà du fait que vous ne parliez pas assez de vos projets, de ce que vous avez fait? Pourquoi? Parce que Raphaël Glucksmann est en train de percer. Qu'est-ce qu'il a de plus aujourd'hui?
Alors Raphaël Glucksmann, il fait le score que faisait le PS en 2014. Oui. Et à cette époque-là, le PS avait dit que c'était une catastrophe. Ce qui se passe, c'est des vases communicants au sein de la gauche. On voit que LFI est en grande difficulté. On voit que les écologistes sont en grande difficulté. Ça profite à Raphaël Glucksmann. En ce qui nous concerne, c'est la moitié du deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Donc c'est difficile. Et beaucoup de nos adversaires parlent de tout sauf d'Europe. Détournent la conversation. On peut imaginer que Jordan Bardella n'a pas très envie de parler ni de son bilan européen, ni de son projet européen. Et nous nous sommes un peu laissés faire. Alors que nous avons des choses à dire, que nous avons des députés sortants, dont j'espère que beaucoup reviendront sur la liste, et qui ont tous apporté quelque chose aux Français. Et pourquoi nous ne l'avons pas davantage dit? Nous avons, par exemple, fait adopter un pacte asile et migration, parce que nous pensons que la question migratoire est une question qui préoccupe les Français, et que nous voulons améliorer le contrôle de l'entrée sur notre territoire. Aucun de nos adversaires ne l'a voté. Ça veut dire que le RN, les LR, le PS votent ensemble, et vote contre, donc nous passent le signal que tout va bien en matière migratoire. Moi, je ne pense pas que tout va bien en matière migratoire.
Est-ce que Gabriel Attal doit débattre avec Jordan Bardella?
C'est à lui de choisir ce qu'il a envie de faire.
Oui.
Moi, je m'intéresse beaucoup plus, si j'ose dire, parce que c'est après-demain, au débat que Valérie Ayer va avoir avec Jordan Bardella. Et si j'ai un conseil à lui donner, à Valérie, c'est de ne pas aller chercher Bardella, mais plutôt d'imposer son récit à elle, qui elle est, ce qu'elle a fait, ce qu'on veut faire. Parce qu'aujourd'hui, si vous parlez aux Français, ils ont beaucoup de sujets de préoccupation, beaucoup d'interrogations, et nous avons beaucoup de réponses à apporter.
Bien, vous avez dirigé l'ENA, vous avez suivi le blocage de Sciences Po.
Hélas,
la direction n'a sanctionné personne. L'impunité est-elle acceptable?
Alors, l'impunité par rapport à quoi? Bloquer, ça n'est jamais une solution. Débattre, bien sûr. Mais j'ai pas vu le débat. Dans la rue Saint-Guillaume, occupé quelques heures par très peu de monde.
Oui, l'écrasante... sur 13 000 étudiants, peut-être 100, 150,
voilà,
200
l'écrasante
personnes.
Majorité des étudiants de Sciences Po voulaient travailler, voulaient étudier.
D'ailleurs, est-ce qu'on a beaucoup de bruit pour rien ou pas?
Pas forcément.
C'est ce que disent plusieurs professeurs de Sciences Po.
Alors moi je suis pas forcément d'accord, parce qu'on se souvient que avant ce blocage, qui me choque, parce que qu'on soit ému par la cause palestinienne, je le suis moi-même. Qu'on trouve insupportable des femmes, des enfants qui meurent à Gaza, bien sûr. Mais je n'ai pas entendu parler de solution à 2 États. Je n'ai pas entendu dénoncer le Hamas comme un groupe terroriste, comme des preneurs d'otages. Je n'ai pas vu la même émotion après le 7 octobre, quand des femmes ont été violées, assassinées, prises en otage. Je ne vois pas la même chose à Sciences Po au sujet de la Syrie et du 500 000 de morts que M. Bachar el-Assad a causé en Syrie. D'ailleurs, Rima Hassan, la candidate LFI, qui ne parle que de Palestine pour des élections européennes, ce qui est un peu curieux, je ne l'ai jamais entendu critiquer le dictateur syrien. Ça
Pourquoi
me trouble.
Pourquoi
Je ne sais pas.
Mais est-ce ça me qu'elle trouble. Est proche, est-ce en tout qu'elle cas, est proche d'Assad,
en tout cas, c'est
du
un
dictateur syrien.
C'est un deux poids, deux mesures qui me choque.
Vous avez des doutes
profondément.
Non, non, je vous dis ça parce que j'ai lu certaines enquêtes la concernant. Est-ce que vous avez des doutes concernant Rima Hassan et concernant sa proximité avec le pouvoir d'Assad ?
Je ne suis pas inspecteur, je ne suis pas procureur, je constate un deux poids, deux mesures. Pour moi, une vie est une vie.
Mais vous avez des doutes.
Une vie palestinienne, une vie syrienne. Non, vous aimeriez me faire dire mais que j'ai des doutes. Mais j'en sais rien, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée.
Non, mais d'accord.
Mais je trouve troublant quand on a la fibre...
Allez-y.
Quand on a la fibre de s'émouvoir pour des morts dans le monde arabe. Moi, je travaille sur la Syrie depuis des années au Parlement européen. 500 000 morts et pas un mot, c'est complètement anormal. C'est complètement anormal. Et pendant ce temps-là...
Et pourquoi ?
Parce que Jean-Luc Mélenchon a décidé de transformer l'élection européenne en quelque chose qui n'a rien à voir. On entend Mme Hassan parler de soulèvement. C'est grave. C'est grave. À quoi ça rime ? Moi, ce que j'ai vu à Sciences Po aussi depuis des années, c'est le hijab day. Ce sont des jeunes enfants gâtés qui s'amusent à porter un voile pendant une journée. Moi, je pense aux Iraniennes qui sont arrêtées, qui sont emprisonnées, qui parfois sont tuées parce qu'elles refusent de porter le voile. C'est un peu indécent.
Alors, que répondez-vous à Mathilde Panot, LFI, qui appelle à mobilisation dans toutes les universités, dans toutes les grandes écoles françaises, mobilisation pour la Palestine, Rima Hassan qui ne cesse de crier « Nous sommes tous des Palestiniens ».
Et pourquoi ne serions-nous pas tous aussi des Ukrainiens ? Pourquoi ne serions-nous pas tous solidaires des gens qui souffrent ? Pourquoi choisir un combat en pensant que c'est le seul qui soit noble ? Pourquoi refuser, comme par exemple le fait le Parti Socialiste, le droit à Israël à se défendre en demandant un embargo sur les armes pour Israël ? Franchement, quand on voit qu'Israël a fait l'objet d'une pluie de missiles et de drones le 13 avril, demander un embargo sur les armes vis-à-vis d'Israël, c'est dire aux Israéliens « Vous êtes le seul pays au monde qui n'a pas le droit de se défendre ».
Un mot sur Sciences Po encore. Remettre en cause les partenariats avec les universités israéliennes, c'est la demande des manifestants. Et d'autres, par exemple Valérie Pécresse, qui coupe les subventions pour Sciences Po, est-ce la bonne solution ?
Ça veut dire qu'on n'arrive plus à se parler. Ça veut dire que demander la suspension d'échanges d'étudiants. Oui. Moi, j'ai créé les premiers échanges entre les élèves de l'ENA et ce qu'on appelle les cadets du service public israélien. Et pourquoi je l'ai fait ? Alors que mes prédécesseurs ne l'avaient pas fait et je n'avais même pas compris leur timidité, leur ultra-prudence. Parce que je voulais que des jeunes Israéliens voyagent, voient autre chose que le pays dans lequel ils étaient en train de s'enfermer intellectuellement. Et je peux vous assurer que quand vous faites rencontrer à Paris des jeunes Israéliens, des jeunes Français, des étudiants arabes de l'ENA, et ben ça donne quelque chose. C'est passionnant, c'est difficile, mais c'est passionnant. Et je vous ne me ferai jamais dire qu'il faut arrêter...
C'est une erreur de stopper les subventions ?
Alors, j'espère que Sciences Po va retrouver, j'allais dire, sa vocation d'enseignement, d'échange, de débat, d'esprit critique. Pourquoi je n'ai pas entendu, pendant toute cette journée de blocage, la solution à deux États ? Pourquoi est-ce que j'ai entendu des jeunes scander ce slogan scandaleux de la rivière à la mer, c'est-à-dire que on nie l'existence d'Israël.
Mais Nathalie Loiseau, n'est-ce pas pénaliser tous les étudiants que de supprimer les subventions ?
Oui, je suis pas du tout favorable. Alors ça peut n'être qu'une menace. Oui. Je trouve que c'est un peu une posture, que c'est un peu de la gesticulation. Retrouvons le bon sens, le calme, remettons les étudiants au travail puisque l'immense majorité le souhaite, mais ne laissons pas prendre en otage des universités ou des grandes écoles.
Enquête pour apologie du terrorisme, Mathilde Panot, Rima Hassan, entendue par la police ce matin, Jean-Luc Mélenchon, lui, poursuivi pour injure publique à l'encontre du président de l'Université de Lille, des atteintes à la liberté d'expression.
Personne n'est au-dessus des lois. Un politique, pas plus que les autres. Alors, atteinte à la liberté d'expression, moi j'entends Jean-Luc Mélenchon tous les jours. Je pense que sa liberté d'expression, il l'utilise, et d'ailleurs, tant mieux pour lui, et tant mieux pour la démocratie. Mais s'il y a plainte, et il y a eu plainte en ce qui concerne Rima Hassan, Mathilde Panot, qu'est-ce que vous vouliez que fasse le parquet ? La mettre à la poubelle ? Ce serait ça l'état de droit ? Je ne crois pas.
La France doit-elle reconnaître l'état palestinien ?
Je pense. Je pense qu'elle doit le faire. Je pense qu'elle doit le faire parce que si on croit vraiment à la paix, qui n'est pas pour demain, mais si on croit à une paix juste, durable au Proche-Orient, c'est avec un État israélien et un État palestiniens qui vivent côte à côte.
Est-ce que Valérie Ayer va le demander dans sa campagne ? Est-ce que
c'est pas son rôle ?
Non,
c'est pas le rôle d'une candidate.
La question va lui être posée. Je l'attends d'ailleurs ardemment ici. Pour l'instant, elle ne vient pas, mais je voudrais savoir. Est-ce que c'est la position de la candidate Valérie Ayer ?
Vous lui demanderez quand elle viendra.
Mais vous êtes sa porte-parole.
Ah, je suis sa porte-parole, mais je suis aussi une ancienne diplomate et je vois que au Conseil de sécurité, la France a voté une résolution à laquelle les États-Unis ont mis leur veto, mais pour demander que la Palestine soit admise à titre plein aux Nations Unies.
Nathalie Loiseau, je vous pose la question parce que plusieurs pays européens vont reconnaître l'État palestinien.
Et ce ne sera pas la compétence d'une parlementaire européenne
Malte,
de le faire.
Enfin bon, etc.
Posez la question à Stéphane Séjourné, posez la question au président de la République, c'est une compétence de l'exécutif.
Oui, mais est-ce qu'Emmanuel Macron y est favorable ?
Je pense que le moment venu, le tout c'est de choisir. Vous savez qu'au moment où nous
il
parlons,
va l'annoncer.
Au moment où nous parlons, il y a une négociation pour un possible cessez-le-feu.
Oui.
Un peu moins mal parti que d'habitude, avec, et je l'espère ardemment, des libérations d'otages, des hommes, des femmes, des personnes âgées, des enfants, qui sont entre les mains de groupes terroristes palestiniens depuis le 7 octobre. J'espère que rien n'ira à l'encontre de ces négociations et surtout d'un résultat positif et qu'on va pouvoir revenir vers des négociations de paix. Stéphane Séjourné est très engagé. Il est dans la région. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, également. Tous les efforts convergent pour essayer de calmer des leaders palestiniens qui sont à l'origine des drames de leur propre peuple depuis le 7 octobre et un premier ministre israélien dont la réaction disproportionnée conduit son pays dans l'impasse.
Pourquoi est-on si indulgent avec Benjamin Netanyahou, franchement ?
Oh, écoutez, je n'ai jamais entendu, par exemple, un président américain, Joe Biden, ou un secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, aussi critique vis-à-vis d'un premier ministre israélien. Jamais depuis des décennies. Il y a beaucoup de choses
très... Il doit comparaître devant la Cour pénale internationale.
On verra. On verra ce que dit la Cour pénale. Moi, je voudrais d'abord qu'on obtienne une trêve.
Pour crime de guerre.
Écoutez, je voudrais d'abord qu'on obtienne une trêve, que les armes se taisent, parce que on peut se faire plaisir, mais il faut penser aux populations de part et d'autre qui vivent depuis le 7 octobre dans une peur épouvantable. Ils risquent leur vie. Ça n'est pas possible que ça continue. Et je ne vois pas l'issue de l'offensive militaire israélienne aujourd'hui. Je ne vois pas vers où Benjamin Netanyahou veut aller, sauf à penser qu'il veut attendre les élections américaines pour avoir un chèque en blanc. Et ça me choque.
On va parler de défense européenne. L'Europe ne veut pas se défendre. J'ai l'impression que l'Europe ne veut pas se défendre. Pardon, Nathalie Loiseau, de le dire, mais pas pardon de le dire, je le pense. La dissuasion nucléaire française est-elle un élément incontournable de la défense du continent européen ? Il y a débat sur une défense européenne englobant des armes de longue portée, un bouclier antimissile, ça avait été proposé par l'Allemagne, et des armes nucléaires. Alors, est-ce que c'est incontournable ? Est-ce qu'aujourd'hui, la dissuasion nucléaire française fait partie de la défense européenne ?
La dissuasion nucléaire française, elle est entre les mains du président de la République française. C'est lui qui décide, c'est la France qui finance, et ça ne sera jamais partagé avec quiconque. C'est notre souveraineté et vous ne connaissez pas un pays doté de l'arme nucléaire qui partagerait la décision ou qui partagerait le financement. Pour autant, l'existence même de la dissuasion nucléaire française participe à la défense du territoire européen, évidemment. Il n'y a pas de, doute
l'Allemagne,
là-dessus.
Imaginons, si l'Allemagne était attaquée, est-ce que nous viendrions à son secours avec notre arme nucléaire ?
C'est tout l'intérêt de l'ambiguïté de la dissuasion. Le président de la République a dit à plusieurs reprises que ses prédécesseurs avaient déjà dit, mais qu'on avait peut-être moins écouté à l'époque, que les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne. Il ne dira jamais plus, parce qu'il faut qu'un potentiel agresseur d'un pays européen y réfléchisse à deux fois en se demandant où s'arrêtent les intérêts vitaux de la France. C'est donc dans l'intérêt des Européens d'avoir simplement un dialogue avec la France. La France, le seul pays de l'Union Européenne qui possède l'arme nucléaire.
Oui.
À un moment où il est possible, pas certain mais possible, que Donald Trump soit à nouveau président des États-Unis, et on a entendu de sa bouche le peu de cas qu'il fait des alliés de l'OTAN.
Oui. Le peu de cas. Donc il faut une défense européenne.
Il faut évidemment aujourd'hui, une défense européenne.
Aujourd'hui, c'est impossible. Quand on voit les dissensions au sein de l'Union européenne...
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Ah bon? Sur ces questions de défense?
Regardez, aujourd'hui, mais au moment où nous parlons...
Quand vous pensez que nos partenaires achètent américains, du matériel américain, toujours?
Alors,
toujours.
Bien sûr. Et là, oui. il faut une vraie préférence européenne,
oui,
dans l'achat des
et
armements.
Qui va accepter la préférence européenne dans l'achat des armements?
Mais vous savez... Quand Emmanuel Macron avait mis en avant des idées en 2017 dans son premier discours de la Sorbonne,
oui,
on l'avait taxé d'idéaliste, voire d'irréaliste. Quand vous regardez ce qui s'est passé, mais c'est faux.
Ah bon ?
C'est faux.
Ah bon ?
Par exemple, en ce moment, en mer Rouge, vous avez une opération navale de l'Union européenne, de l'Union européenne, avec des navires français, allemands, grecs, italiens, pour protéger les navires de commerce contre les Houthis. C'est une réalité.
Oui,
ça, c'est de la défense européenne en marche.
Depuis 2017, pardon, on achète toujours nos munitions ailleurs.
Non,
que
de
dans
moins
l'Union
en moins,
européenne.
On les produit de plus en plus dans l'Union européenne. Avec.
Nous sommes en 7 ans, on a peu progressé, franchement.
On a commencé à progresser et il faut accélérer.
Oui.
Le Parlement européen, oui, auquel j'appartiens, a permis que l'on, oui, aide à produire des munitions en Europe, qu'on rouvre des usines. On a vu récemment Sébastien Lecornu à Bergerac,
oui,
rouvrir une usine de munitions. Qu'on accélère les cadences. Est-ce qu'il faut faire plus? Oui, plus vite. Oui, on est de plus en plus nombreux à le penser. Il y a une majorité au Parlement européen pour le soutenir. Il y a des budgets européens qui y sont consacrés. C'est une révolution culturelle qui est en train de se passer. Et croyez-vous que l'Ukraine aurait tenu en attendant que les États-Unis se décident enfin à lui livrer à nouveau des armes et des munitions s'il n'y avait pas eu l'Europe derrière? Heureusement que l'Europe, elle, avait fait sa part du travail, qu'il y a 28 milliards d'euros d'armes et de munitions qui sont partis vers l'Ukraine grâce aux Européens. Ça a permis à l'Ukraine de tenir. Alors, est-ce qu'on doit se reposer sur nos lauriers? Non. Il faut accélérer. Il faut faire plus. Il faut le dire à nos compatriotes. C'est,
oui,
une priorité. Parce que nous ne serons ni libres, ni prospères si nous n'avons pas une défense européenne plus puissante, mais nous avons commencé et nous avons changé d'époque.
Mais Nathalie Loiseau,
amener les Allemands à accepter cette évolution, oui, c'est considérable. On ne se rend pas compte les pas qui ont été franchis.
Bien, c'est une vieille idée de Jacques Chirac. Sortir le budget de la défense des critères de Maastricht.
Ouais.
Oui, vous le demandez?
Non.
Ah bon,
parce que je pense que donner aux autres Européens un regard,
oui,
sur nos budgets nationaux de défense, je ne suis pas d'accord.
Mais
c'est à
d'accord.
nous de bon. Décider ce qu'on consacre. Il faut que tous les Européens fassent plus, comme tous les membres de l'OTAN se sont engagés à dépenser au moins 2% de leur produit intérieur brut pour la défense. C'est le cas de la France qui arrive à ces 2%. On s'aperçoit que c'est même peut-être pas suffisant, mais c'est vraiment une prérogative nationale. C'est un choix qui est fait par nos parlements. En revanche, il faut qu'on harmonise nos programmations de défense. On a beaucoup trop de programmations nationales qui ne se répondent pas les uns les autres. Certains rêvent d'un porte-avions européen. Ben, je leur souhaite bonne chance. Tant que l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne programment leurs dépenses militaires sans vraiment se concerter, ce sera impossible. Et ça, c'est un point faible.
Bien, Nathalie Loiseau, j'ai écouté Emmanuel Macron. L'Europe peut mourir.
Oui.
Vous le pensez?
Elle est attaquée.
Vous pensez que l'Europe peut mourir?
Bien sûr.
Mais elle est attaquée, oui. Sur le plan commercial, elle est attaquée par la Chine et les États-Unis,
oui,
qui ne respectent aucune règle du commerce international. Nous sommes naïfs.
C'est très est-ce exactement que... ce qu'a dit Emmanuel Macron.
Nous est-ce que l'Europe est naïve?
Nous sommes les derniers à croire à une religion que les autres ont abandonnée.
Oui.
À dire que les règles de l'OMC s'imposent à tous. On se les impose à nous-mêmes. Alors,
oui,
l'Europe a commencé à sortir de la naïveté. Il y a en ce moment des procédures anti-dumping qui ont été lancées par la Commission européenne contre la Chine, sur les voitures électriques notamment.
Qui inondent les ports. Vous avez vu les images
bien
à
sûr.
Anvers,
mais justement.
À Rotterdam, les ports européens qui sont envahis par les voitures électriques chinoises.
C'est pour ça que d'ici 2030, on aura des batteries électriques 100% fabriquées en Europe. Vous avez vu à Dunkerque la gigafactory de batteries, mais ça c'est un
mais
énorme
changement.
Ce
sont aussi les panneaux solaires chinois. J'ai vu que la dernière usine française fermait.
Et c'est exactement pour éviter cette erreur funeste sur les panneaux solaires qui a consisté à dire, beaucoup l'ont dit d'ailleurs, beaucoup de nos partenaires disaient, s'il faut aller vers le renouvelable, autant acheter du renouvelable pas cher qu'en produire en Europe. Ça nous rend dépendants de la Chine. Il y a quelque chose à quoi malheur a été bon, si j'ose dire. Le Covid, la guerre en Ukraine, nous ont montré le prix de nos dépendances. On ne peut plus dépendre pour notre énergie de la Russie, pour les énergies renouvelables ou des produits pas chers de la Chine, et pour notre sécurité des États-Unis. Une Europe puissante, c'est une Europe qui se fait respecter, et c'est une Europe qui construit son autonomie.
Et plus protectionniste ?
C'est pas du protectionnisme, c'est aider à avoir des champions européens. On a été capable d'avoir des champions européens.
Sauf que les pays de l'Est de l'Europe sont les têtes de pont de la progression chinoise en Europe, vous le savez bien.
Alors, très peu. La Serbie, qui n'est pas dans l'Union européenne. Et la Hongrie, qui est, j'allais dire, l'empêcheur de tourner en rond, permanent sur tous les sujets. Proche de la Russie, proche de la Chine, proche de la Turquie, pas vraiment très proche des démocraties européennes. Il y a un problème d'état de droit en Hongrie. Nous avons réussi, ce qui paraissait impensable, même aux chefs d'État et de gouvernement, c'est de conditionner le versement des fonds européens au respect de l'état de droit en Hongrie. On voit des manifestations en Hongrie aujourd'hui, on voit des gens qui sont mécontents. C'est aux Hongrois de choisir.
On en voit partout, chez nous aussi.
On en voit par exemple en Géorgie.
Oui, c'est vrai.
Vous avez vu les dizaines de milliers de Géorgiens qui manifestent avec des drapeaux européens. Eux, ils n'ont pas la lassitude de l'Europe. Eux, c'est des affamés de l'Europe. Eux, ils savent ce que c'est que avoir
nous
un espace.
Nous avons la lassitude de l'Europe, nous, en France.
Non, on est des enfants gâtés. On est des héritiers, des rentiers de la paix, de la démocratie, de l'Europe. On a hérité ça de la génération d'avant et on pense que tout ça peut durer sans effort. Or, l'Europe est menacée.
C'est l'Europe est notre salut.
Écoutez, pour une France forte, il faut une Europe forte. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes face à la Chine, à l'Inde, aux États-Unis, qu'est-ce qu'un pays européen seul pèse ? Prochainement, le président de la République va accueillir le président chinois, Xi Jinping.
Oui, la semaine prochaine.
Qu'il a convié Ursula von der Leyen à être avec lui à Paris. Parce que quand on parle au président chinois, on ne lui parle pas seul. On lui parle au nom de tous les Européens. Il n'y a que ça qu'il peut entendre.
Que vous soutiendrez, Ursula von der Leyen ?
Je ne sais pas. Ça dépend ce qu'elle propose. Pour le moment, personne n'a entendu son programme pour être à nouveau présidente de la Commission.
Donc vous ne savez
pas. Je ne sais pas ce qu'elle propose, donc je ne sais pas si je la soutiens.
Puisque nous parlons d'Ursula von der Leyen, ce sera ma dernière question. L'enquête sur les contrats passés avec Pfizer, où en est-on sur les vaccins anti-Covid ?
Alors d'abord, on en est qu'on est le continent le mieux vacciné au monde et qu'on a été la pharmacie du monde. Je le rappelle parce qu'on a tendance à l'oublier.
Oui.
Et que tout ça a été fait grâce à l'intuition d'Ursula von der Leyen et de tous les ministres des 27 qui ont, avec elle, négocié les contrats. Elle n'avait pas la compétence de le faire seule. Donc je trouve que quand maintenant on la pointe du doigt...
Il y a une enquête. Il y a une enquête.
Et je ne suis pas
Elle est nécessaire, cette enquête.
Je ne suis pas dans les secrets de l'enquête.
Oui.
Il est nécessaire que...
Est-ce que vous avez des doutes sur ces contrats signés ?
Je ne sais pas. Je n'ai pas forcément de doutes et je ne supporte pas les complotistes anti-vax qui nous demandaient de nous vacciner avec un vaccin russe inefficaces et qui sont les mêmes à essayer de semer le doute et le soupçon sur les vaccins qui ont sauvé des vies. Simplement, la transparence est nécessaire. Il y a une enquête, on verra les résultats de l'enquête. Je ne suis pas dans les secrets de l'enquête.
Merci beaucoup, Nathalie Loiseau, d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h57, ça vous fait réagir. 0826-300-300, vous n'hésitez pas, vous intervenez. Vous êtes à l'antenne avec nous, juste après les infos de 9h.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Hier, mon mari a rapporté du beau muguet de chez Leclerc.
Oh, ça c'est gentil. Ça vous a fait plaisir ?
Bah, ça aurait pu. Sauf qu'en fait, il l'a offert à sa mère.
Aïe. Dites-lui de repasser en prendre un autre. Du 29 au 30 avril chez Leclerc, les trois brins de muguet et une rose sont à 2,39€.
Ah bah, à ce prix-là, je vais m'en offrir à moi-même. Ce sera plus sûr.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Existe en différents coloris, voire détails en point de vente. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Sud Radio Dax.
102.
Sud Radio.
Super Diète. Le laboratoire familial français de la santé naturelle et bio, fabricant de compléments alimentaires depuis plus de 60 ans dans les Hauts-de-France. Fidèle à l'esprit de son fondateur naturopathe, Super Diète restitue le meilleur des plantes pour vous accompagner à être acteur de votre santé. Super Diète, respectons votre nature. Retrouvez-nous sur superdiète.com.
En ce moment, pour vous aider à avoir une peau nette, choisissez le zinc Super Diète, une formule 100% végétale sans additifs. Pour votre santé, bougez plus.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
French Days Zalando.
French Days sur Zalando.
Ah non, c'est French Days sur Zalando. Des promos jusqu'au 9 mai avec jusqu'à moins 50% sur nos marques préférées. Être à la mode avec des réductions, c'est très français ça. Remise valable sur le prix d'origine. Détails de l'offre sur l'application Zalando et sur Zalando.fr.
French Days sur Zalando.
Bah voilà.
Pour garder la forme, j'agis. Pour assurer ma santé, j'agis. Pour mon entreprise, j'agis. Pour assurer mon avenir, j'agis. Pour donner des soins.